Vivre FM, podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès.
Mon invité a flirté avec la mort. Plus précisément, il a été dépressif durant une grande partie de sa vie. Pour échapper aux ténèbres et au suicide, il a décidé de pousser la porte d'un thérapeute, mais il lui a fallu parcourir un long chemin semé d'embûches pour enfin s'occuper de lui. Au fil de son long combat, il a compris qu'un traumatisme subi dans l'enfance n'est pas une fatalité ni un désastre, mais souvent une chance pour parvenir à mieux se connaître en profondeur. Aujourd'hui, il a décidé de témoigner de sa résilience pour aider celles et ceux qui traversent les mêmes épreuves. Vivre FM, c'est vous, commence maintenant. Marc Alpozo, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être présent sur l'antenne de Vivre FM. Je suis ravi de vous accueillir pendant une heure. On va revenir sur votre parcours de vie et sur ce livre que vous venez nous présenter. Il s'intitule « Le saut Nijinsky, journal d'un éveil ». C'est publié aux éditions Regard et Voir. Ce livre, c'est l'histoire un petit peu d'une résurrection, on peut dire ça comme ça. Vous racontez votre long combat contre la maladie, contre la dépression, et vous avez eu envie de témoigner qu'il était possible de s'en sortir.
Oui, voilà, c'est exactement ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais montrer que la dépression, moins qu'un mal définitif, c'était peut-être un cadeau qui nous était offert pour mieux comprendre notre parcours de vie, mieux comprendre le sens de notre vie. Et probablement que c'était un moyen pour nous d'accéder au bonheur, ou en tout cas d'accéder à une certaine connaissance de soi.
Vous êtes écrivain, vous avez été aussi longtemps professeur de philosophie. Est-ce que votre métier de professeur de philosophie vous a aidé un petit peu justement à sortir de cette dépression et de quelle manière?
Oui, certainement la philosophie elle-même. J'avais commencé des études de philosophie il y a bien longtemps, un peu par hasard. Et puis je me suis rendu compte, au-delà même de ce métier que j'ai longtemps pratiqué avec énormément de bonheur et de manière très jubilatoire, que la philosophie me permettait justement de revenir sur moi-même et d'essayer d'explorer certaines choses en me questionnant et en apprenant justement à questionner des fondamentaux que peut-être à côté desquels je passais régulièrement un peu trop rapidement.
Alors on va revenir en détail sur votre parcours de vie que vous racontez dans ce livre, hein, Le saut Nijinsky, journal d'un éveil. Vous écrivez, je vous cite, « Je suis triste surtout car je n'ai vu qu'une partie de ma vie, la part tragique. J'en ai manqué la part poétique, je n'en ai entendu que le bruit, la fureur, occulter tout l'aspect fabuleux. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette phrase, Marc Alpozo?
Eh bien écoutez, ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu comme ce que dit Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vie et cette vie, on ne peut pas la voir dans la totalité. Et souvent, on a appris ou on a mal appris à regarder certaines choses qui nous arrivent. Et donc, dans ma propre vie, on m'a appris à regarder peut-être un peu trop la part tragique de cette vie, la part un peu négative. Donc, je n'ai su regarder que le malheur et je n'ai su me focaliser que sur le malheur. Ou en tout cas, sur le côté très très dramatique de mon parcours, surtout au départ. Ce qui a fait que j'en ai manqué toutes les autres parties qui étaient à la fois la poésie même de cette vie, ce voyage, ce long voyage d'un point à un autre, l'entre-deux, être entre deux cultures, deux langues, deux continents. Et je n'ai pas su vraiment le regarder avec suffisamment de force et de profondeur pour sortir, je dirais, de ce côté peut-être un peu trop dramatique, ou en tout cas cette manière de dramatiser les choses, et j'ai un peu trop peut-être dramatisé.
Oui, parce que dans votre livre, vous nous faites voyager puisque vous êtes parti à la quête de vos origines en Amérique. Cette double culture, pour vous, vous avez longtemps vu ça comme un malheur, en fait, alors qu'au final, ça aurait pu être quelque chose de positif, c'est ça?
Oui, c'est ce que je dis. J'ai été très encombré parce que je ne savais pas faire avec deux langues, avec deux pays, deux cultures, d'autant que j'étais avec une femme qui était non-voyante, c'était ma mère, et puisque mon père était resté aux États-Unis, et qu'elle ne m'a pas appris à voir, elle ne savait pas elle-même voir, elle avait déjà beaucoup de mal à voir elle-même, je dirais physiquement, mais métaphysiquement, elle ne savait pas voir les choses, on ne lui avait pas appris. Et donc, de fait, elle n'a pas su m'apprendre comment gérer cette richesse d'être entre deux mondes. J'ai trop souffert de cela, alors que j'aurais dû, au contraire, y voir l'apport qui est bien, bien au-delà d'être que dans une langue, un monde, un pays.
Alors, Marc Alpozzo, à quand remontent vos premiers souvenirs de cet état dépressif, de vos premières angoisses, à quel âge ça a commencé tout ça?
Alors, c'est ça qui est très amusant, parce qu'on croit que la dépression, ça commence un jour. Alors, moi, j'aurais plus ou moins daté ça en 2007, vous voyez, un an avant ma thérapie, donc un an avant d'entrer chez ma thérapeute. Mais en réalité, dans le livre, je commence à le mettre un peu plus loin, c'est-à-dire à la mort de ma mère, ça, alors là, c'est en 98. Mais il est fort probable que la dépression prenne racine dans l'enfance. Elle prenne racine très 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 loin dans l'enfance et elle met énormément de temps à se faire jour. Et donc on porte avec soi cette dépression, ou en tout cas cet embryon de dépression qui prend naissance en nous et qui s'installe progressivement. Et puis un jour, il y a une catastrophe. Alors, je ne saurais pas vraiment vraiment expliquer quelle catastrophe en 2007, mais il y a quelque chose qui se passe et qui, à ce moment-là, laisse la dépression se agir. Et alors, elle devient de plus en plus ravageuse avec le temps.
On peut voir les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on accumule sans le savoir inconsciemment et puis après, ça explose, quoi, c'est ça. Et quand ça explose, c'est que c'est trop tard.
On accumule, voilà, c'est jamais trop tard. Enfin, ça, c'est ma thèse, hein, puisque moi, je suis passé par là. J'ai eu le sentiment que ce n'était pas trop tard, heureusement, parce que j'ai agi dessus. Mais effectivement, si on n'agit pas dessus, on peut dire que c'est trop tard. Mais alors, avant, c'est difficile de le voir, parce qu'on accumule, effectivement. Mais comme on est dans le déni, comme on essaye de fuir cette dépression, on essaye de fuir tout ça, même s'il y a des symptômes qui est là, qui surgit parfois. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de circonscrire la dépression, ou en tout cas d'en circonscrire les raisons, et de traiter ça immédiatement. C'est pas toujours évident. Il est vrai que moi, je suis arrivé à le faire, mais ça a été un travail, un long parcours et un long travail de personnel et un long parcours du combattant.
Alors, cette dépression, quand elle est survenue, comment elle s'est matérialisée? Dans quel état vous étiez? Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle s'est matérialisée par déjà une disparition de l'enthousiasme. Elle s'est matérialisée par une disparition du sens. Plus rien ne faisait sens, c'est-à-dire que c'est un petit peu, je l'explique un petit peu au début du livre, en citant même Heidegger, je dis que effectivement, c'est un petit peu comme si le monde était un décor de carton-pâte et que tout s'écroulait et qu'on n'arrivait plus à entendre le bruit du monde, on n'arrivait plus à trouver le sens, on n'arrivait plus à connecter avec les autres, avec le groupe, avec le sens, le récit collectif. Plus rien, il n'y a plus de lumière, on est un petit peu plongé dans les ténèbres. Et on ne sait plus vers quoi aller, on ne sait plus vers quoi se diriger, vers quoi. Et en même temps, on est pétri, je dirais, de noirceur, et à la fois extérieur et intérieur. Et donc c'est comme un peu un sentiment de désolation. Oui.
C'est un état extrêmement compliqué à comprendre soi-même et à faire comprendre à l'entourage aussi. La dépression, c'est une maladie compliquée à comprendre.
Très compliqué à comprendre, très compliqué effectivement à faire passer à l'entourage. Il faut que l'entourage soit très 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 attentif, il faut qu'il soit très ouvert, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis surtout, on est au-delà de l'anxiété ou de la peur, puisqu'on est dans l'angoisse. Et ce que je dis, c'est que l'angoisse n'a pas d'objet, c'est qu'on ne voit pas pourquoi, on ne comprend pas. C'est ça, quand je dis l'angoisse n'a pas d'objet, c'est que... La peur, on peut encore dire pourquoi on a peur. Si on est face à un animal, par exemple, un animal féroce, on sait pourquoi on a peur. On a peur parce qu'on a cet animal féroce face à nous. Mais si on nous l'enlève, on n'a plus peur. La peur s'en va. Mais l'angoisse, on ne sait pas pourquoi on est angoissé. On se lève le matin, on est angoissé. On est l'après-midi, on est angoissé. Et on ne sait pas, on n'arrive pas à fixer. Et ça, c'est terrible. Parce qu'effectivement, on n'arrive même pas à le communiquer aux autres, puisque les autres ne peuvent pas comprendre. On ne sait même pas quoi expliquer.
Alors, vous décidez de pousser la porte d'un thérapeute, mais vous dites dans votre livre, sans trop de conviction au départ, Pour quelle raison ?
Ben, disons qu'on dit beaucoup de mal, je pense, de la psychanalyse, et puis récemment, c'est encore revenu un petit peu, je dirais, sur le devant de la scène avec le livre sur Freud d'Onfray. Donc c'est vrai qu'on dit énormément de mal de la psychanalyse, on ne comprend pas toujours le rôle du thérapeute dans la relation au malade, au patient. Probablement aussi que l'entourage est très inquiet, parce que une thérapie, je pense qu'inconsciemment, on ressent tous que si l'un d'entre nous, dans le groupe, va faire une thérapie, ça va tout changer, ça va changer toutes les relations. Alors, les autres ont tendance à vous donner à vous déconseiller, etc. Et puis, on a peur, parce que je pense qu'on est dans le déni pendant très longtemps, et on a peur de lâcher avec ce qu'on connaît. Au fond, on est bien mieux dans ce qu'on connaît que de ce qu'on ne connaît pas. Donc l'inconnu nous faisant peur, on se dit finalement le jus dans lequel je baigne, c'est finalement peut-être mieux que ce dans quoi je vais baigner, même si ça peut être mieux, parce qu'au moins je sais ce dans quoi je baigne. Donc ce premier pas est toujours difficile, toujours douloureux, et il n'est jamais vraiment accompagné. C'est rare que ça peut être accompagné, mais bon, en tout cas dans mon cas, ça n'a pas été trop accompagné.
Même pour vous, j'imagine, votre premier rendez-vous avec votre thérapeute, ça doit être compliqué. Par où commencer, quoi lui raconter? Comment ça s'est passé ?
C'est assez difficile. C'est vrai. Alors, je me suis lancé. Moi, je me suis lancé. Mais j'étais très très mal après, parce que on a le sentiment qu'on a dit plein de bêtises, qu'on s'est ridiculisé, ou qu'on a peut-être dit des choses qui avaient pu choquer la thérapeute. On se rend pas encore compte qu'elle a. Elle en a entendu des vertes et des pas mûres, donc pour elle, c'est son métier. Mais la première fois, c'était un peu difficile. Moi, j'ai pu me lancer, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lancer. Ça dépend de la capacité de parole de chacun. Mais le premier moment, ce n'est pas toujours évident, parce que de toute façon, on ne dit rien. Enfin, on ne dit rien. Déjà, ne rien dire, c'est pas si grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore le moment. Le déni, moi, ce que j'explique, c'est que le déni continue de faire son effet, et que pendant la première année, j'ai beaucoup résisté, si j'ose dire, à ce que me disait la thérapeute, puisqu'au moment même où j'ai commencé mon récit, elle m'a dit qu'il fallait que je rentre aux États-Unis, et bien entendu, je lui ai dit que jamais je ne le ferais. Donc voilà, c'est le moment où le déni continue, où on est encore en pleine résistance.
Voilà, elle vous a conseillé de partir sur les traces de vos origines, de votre père aux États-Unis. Et en même temps, vous nous faites voyager à travers votre livre. On reviendra dans un instant sur cette partie de votre vie. Restez avec nous, Marc Alpozzo, dans un instant, la suite de cette émission, juste après la pause.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Marc Alpozzo est notre invité aujourd'hui. On continue de dérouler son parcours de vie à travers ce livre que vous venez nous présenter. Il s'intitule « Le saut Ninjeski, journal d'un éveil ». C'est publié aux éditions Regards et Voir. Un livre où vous racontez votre long combat contre la dépression et surtout votre renaissance. On peut parler d'une renaissance, d'une résilience même. Pourquoi, Marc, ce titre, cette référence à Ninjeski, le célèbre danseur russe, dans votre livre ? Est-ce qu'il y a un lien à voir avec votre parcours ?
Écoutez, au départ, j'aurais pas pensé du tout l'intituler comme ça, puisque mon journal intime s'intitulait « Autoportrait au marteau ». Et puis c'est venu tout à fait par hasard, parce que je cherchais à démontrer que nous devions être dans l'axe. Alors Nijinsky étant un danseur russe très connu, qui avait un saut très particulier, est un danseur qui s'inscrit dans l'axe même des choses. Or, ce que je veux montrer dans mon livre, et puis il y a également le mot de saut qui est très important dans ce livre, mais Nijinsky lui-même, si j'ose dire, je l'utilise pour dire c'est le moment où on doit être dans son propre axe. Je pense que le bonheur, et c'est ce qu'on recherche tous, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu ce que cherchent tous les êtres humains, et peut-être que la dépression, elle est là pour être un signal pour nous dire que nous ne sommes pas justement dans notre propre axe, nous sommes dans l'axe des autres. Nous sommes les autres, nous écoutons les autres et nous sommes peut-être un peu trop, je dirais, déterminés par ce qu'on nous a appris en termes de croyances, de savoirs, de préjugés, etc. Donc c'est se réinscrire dans son axe propre. Et puis le saut, je l'ai utilisé parce qu'il y a plusieurs formes. Bah, le saut lui-même, c'est le saut d'un continent à un autre, bien sûr. Le saut de danseur, bien sûr, mais également le saut SOT, parce que l'imbécile, c'est celui qui est nié, hein, et dans nier, S, il y a nier, N-I-E-R. Donc celui qui est tout le temps en train de nier, qui ne, n'accepte pas de, de vraiment reconnaître ce qui ne va pas pour se réinscrire dans son axe. Et puis il y a le sceau, S-C-E-A-U, qui est le contrat passé, le contrat tacite passé avec les parents, moi passé avec ma mère. Celui de ne pas retourner aux États-Unis, celui de ne pas retrouver mon père, parce qu'il nous avait abandonnés. Donc, il y a ce pacte passé, ce sceau, qui empêche donc de voir la vérité, enfin sa propre vérité, bien sûr.
Voilà, donc ce titre regroupe beaucoup de symboles pour vous, hein, le sceau de Nijinsky, journal d'un éveil, publié aux éditions Regard et Voir. Alors, on va continuer à dérouler votre parcours de vie. Donc, vous nous avez dit que vous avez décidé de pousser l'apport d'un thérapeute qui vous a conseillé de partir aux États-Unis. Pourquoi ?
Alors, il m'a conseillé de partir aux États-Unis parce que, ben, déjà, j'étais coupé de mon père depuis une bonne vingtaine d'années, puisque la dernière fois que j'ai vu mon père, nous nous sommes vus à New York, donc à l'aéroport, quand je rentrais à Nice. Et donc, c'était en 81. Et lorsque j'ai passé la porte du thérapeute, c'était en 2008. Et je n'avais jamais revu mon père, je ne savais pas s'il était vivant ou mort, nous ne nous parlions plus. Et puis il y avait l'Amérique. L'Amérique qui était comme un idéal de vie ou comme un fantôme dans ma vie. Et je ne cessais de parler de l'Amérique sans jamais retourner, alors qu'il suffit de prendre un billet et d'y aller. Et je n'avais jamais fait ce pas-là.
À ce moment-là, il est clair du coup que votre dépression est liée à votre questionnement sur vos origines, quoi, et sur ce père que vous n'avez jamais revu.
Voilà, je pense que la dépression est liée à plusieurs choses. Elle est liée effectivement à l'abandon du père, elle est liée au déracinement. Déracinement, puisque j'ai d'abord été américain avant d'être français, j'ai commencé par parler anglais avant de parler français, j'ai appris la langue française tardivement, vers 7-8 ans, et j'ai oublié la langue anglaise, ou en tout cas je ne l'ai plus pratiquée. Et puis c'est également effectivement, oui, les origines, c'est-à-dire le récit. Quel est le récit qu'on vous a raconté ? Quel est le récit qu'on vous a donné ? Moi, j'avais un récit qui était faux et je ne cessais de le répéter mentalement, parce que c'est très mental tout ça. Donc, je ne cessais de le retourner dans ma tête. Et bien entendu, inconsciemment, je savais que ce récit n'était peut-être pas tout à fait exact. Et je me refusais à le travailler. Et donc, à un moment donné, effectivement, tout ça a créé des troubles.
Alors, vous êtes allé aux États-Unis ou pas ?
Alors oui, ce que je raconte dans le sceau de Nijinsky, oui, je suis parti, bien sûr. Je suis parti aux États-Unis, effectivement, c'est à force de m'entendre dire il faut partir, j'ai fini par faire des recherches. Alors c'était très amusant parce que je ne trouvais pas mon père, ou je le trouvais mais sans le trouver pendant des années en cherchant sur Internet. Et puis un jour, j'ai retrouvé toute la famille sur Internet, sur Facebook, etc. Et là, j'ai contacté mon père, mais il était décédé un mois plus tôt.
D'accord.
Donc, c'était 1er avril, il était décédé. Un an plus tôt, excusez-moi, un an plus tôt.
D'accord. Vous avez pu contacter les autres membres de la famille ?
Alors, c'est ce que je raconte aussi dans le sceau de Nijinsky. J'ai pu recontacter ma marraine. Bon, on s'est retrouvé à Sarasota, en Floride. J'ai pu retrouver ma belle-mère, que j'avais connue quand j'étais allé voir mon père, donc avec 30 ans de plus. Et je l'ai retrouvé à New York. On a été bloqué à Long Island à cause de leur incendie. Donc ça, évidemment, c'est des liens qui se sont reconstruits. Difficilement, parce que c'est très, quand on est parti 30 ans, on est toujours entouré d'un halo de mystère. Mais par contre, en ce qui concerne ma demi-sœur et mon demi-frère, là, évidemment, ils ont refusé de me rencontrer. Ma demi-sœur, je cite la lettre dans mon livre, elle m'a fermé la porte au nez, parce que c'est évidemment, c'est pour eux, c'est peut-être trop déstabilisant. C'est une histoire qui va peut-être les déstabiliser psychiquement de manière très durablement et de manière très profonde. Alors, ils ont préféré rester dans le déni, si je veux dire.
Et vous êtes dans quel état d'esprit là-bas, lors de ce voyage ?
Je pense que j'ai beaucoup de mal à prendre conscience de ce que je fais. Je suis encore assez mal, mais déjà satisfait d'avoir au moins fait ce pas. C'est ce que je raconte aussi dans le sceau de Nijinsky. ma psy me met en garde, elle me dit, bon, vous avez fait toutes ces démarches, c'est très bien, vous avez pris votre billet, mais enfin, est-ce que vous allez vraiment y aller en Amérique? Est-ce que vous n'allez pas vous dégonfler au dernier moment? Alors moi, je suis très surpris, je me dis, mais pourquoi est-ce que vous dites quelque chose de ce genre? Ah, mais parce qu'il y a plein de gens qui ont reboosté le chemin au dernier moment. Et effectivement, n'est jamais vraiment évident, mais moi, j'étais très enthousiaste. Donc j'y suis allé, je suis allé directement à New York, j'ai retrouvé cette ville, donc je le raconte dans son une fille, cette ville qui a nourri mon enfance et puis qui a nourri toute ma vie finalement, sans le savoir, hein, puisque je suis resté quand même très américain malgré tout. Et puis c'est au retour que j'ai commencé à prendre vraiment conscience de ce que j'avais fait.
Vous vous racontez dans le livre que vous avez eu l'impression d'une rencontre avec vos propres origines. Comment vous avez été accueilli par les membres de la famille? Alors, pas vos frères et sœurs, mais par exemple votre marraine. Et puis, est-ce que vous avez appris et eu des réponses à des questions que vous aviez sur votre père?
Oui. Alors, ma marraine, pour vous répondre, ma marraine était évidemment très enthousiaste. Alors, elle m'a dit que j'avais changé sa vie parce que, bon, je raconte dans mon livre, ma marraine est une femme qui a eu énormément de... une vie assez tragique elle-même, elle a perdu ses deux enfants, son mari. Donc quand je reviens, c'est un petit peu comme... elle m'adorait quand j'étais petit, donc c'est un peu comme si Dieu lui renvoyait l'un des siens. Et puis ma belle-mère, très surprise, mais bon, ma belle-mère est une femme très très particulière, donc oui, elle est très surprise, mais elle est un peu comme mon père, ils sont beaucoup dans les relations, ils sont très forts pour la communication et les relations.
Et est-ce que vous avez eu des réponses par rapport à des questionnements autour de votre père?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu une réponse, c'est ce que je raconte dans le Sony Jinsky. J'ai eu une réponse quand j'ai été invité par ma belle-mère à une soirée qu'elle avait préparée pour moi. Elle m'a présenté l'infirmière de mon père vers la fin de sa vie. Et c'est vrai, j'avais toujours demandé si mon père ne m'avait pas un peu oublié. Je l'avais un peu oublié, puis finalement, on ne s'est jamais vraiment oublié. C'est très difficile d'oublier des membres de la famille. Mais peut-être pendant un certain temps, on pense qu'on peut vivre sans ces gens-là. Et puis, elle m'a avoué que mon père avait été très, très, très heurté par ce qu'il nous avait fait et que la fin de sa vie, il avait véhément vécu. Ça lui a repris conscience de ce qu'il avait fait et qu'il avait, d'une certaine façon, il avait un peu détruit, mais il avait aussi détruit l'enfant qui était en lui. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose de très douloureux. Il avait vécu vraiment de manière très douloureuse et ça m'a quand même fait plaisir, non pas la douleur, parce que je n'en ai jamais trop content que ses parents souffrent, mais ça m'a fait plaisir de savoir qu'il avait quand même, jusqu'au bout, il avait pensé à moi et qu'il avait pris conscience de ça. Donc finalement, c'est peut-être aussi, ça m'a montré qu'il était peut-être passé à côté de quelque chose et ne s'était pas rendu compte. Donc c'est rassurant. C'est rassurant de se dire que bon, les gens peuvent effectivement prendre conscience, même à la fin de leur vie, d'une chose fondamentale qui est le lien de la famille. Et donc ça m'a réconcilié avec ce lien de la famille, parce que ce que je dis dans mon livre, c'est que mon père n'a jamais apparu comme étant la figure du père. Jamais, j'ai tout eu le sentiment de ne pas avoir eu de père. Donc, de fait, comme je dis dans mon livre, si je n'ai pas eu un père, j'en ai eu des dizaines, puisque j'ai eu tous les écrivains, les artistes, ce que je voulais finalement. Mais je n'ai pas eu le père biologique et le père sentimental, je ne l'ai pas eu.
Ce voyage, qu'est-ce qu'il a changé en vous?
Ce voyage m'a beaucoup apaisé, parce que cette dualité avec l'anglais, cette dualité avec l'Amérique, cette dualité avec le père, ne me permettait pas d'être en paix avec moi-même et en sérénité, d'être dans mon axe. Donc voilà un des objets de la dépression. Et puis, deuxièmement, il m'a amené donc à mieux saisir finalement mon récit propre. Non pas celui qu'on m'avait écrit, mais celui que je pouvais moi m'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai commencé à me réconcilier avec l'entre-deux. J'ai commencé à accepter que peut-être j'étais quelqu'un qui était à la fois franco-américain, entre deux langues, l'anglais et le français, deux familles, parce que je m'appelle Alpozzo et ma famille s'appelle Di Antoni. Donc, deux familles. Et c'est ce que j'appelle le travail d'éveil. L'éveil à la joie. Enfin, je pouvais sortir de la noirceur, de la part d'ombre. J'ai toujours vécu comme étant la part de l'ombre de la famille.
Marc Alpozzo, restez avec nous. Dans un instant, la suite de cette émission, on continue de parler de votre livre, ce livre qui s'intitule « Le saut Nijinsky, journal d'un éveil », c'est publié aux éditions Regards et Voir. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la troisième partie de Vivre FM, c'est vous, avec notre invité Marc Alpozzo qui vient nous présenter son ouvrage. Il s'intitule « Le saut Nijinsky, journal d'un éveil ». C'est publié aux éditions Regards et Voir, un livre dans lequel vous racontez votre combat contre la dépression et votre renaissance. Renaissance en partie grâce à ce voyage que vous avez fait aux États-Unis sur les traces de vos origines, sur les traces de votre père. Quelle est votre nouvelle vie aujourd'hui, Marc Alpozzo, depuis cette épreuve ?
Ben déjà, j'ai quitté Nice. Hein. J'habite maintenant entre Paris et le Luxembourg. Je n'enseigne plus la philosophie. J'enseigne le français aux étrangers. Et puis j'écris. Je suis critique littéraire au Grand Genève Magazine. Et puis je continue d'écrire des livres et je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup plus qu'avant.
En quoi le voyage vous aide du coup à aller mieux ?
Le voyage m'aide, oui, parce que le voyage est toujours une tentative de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'à travers, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'étranger. Alors pas les étrangers, mais l'étranger, l'étrangeté en soi, notre part d'étrangeté. Donc aller vers des terres étrangères, c'est ce que je raconte dans le saut Nijinsky. J'ai été longtemps errant, mais c'était une errance intérieure. Je faisais de petits voyages, bien sûr, par-ci, par-là, mais sans grande conséquence. Mais j'ai longtemps été errant parce que je n'acceptais pas de regarder en face mon étrangeté, cette part d'ombre en moi que je ne voulais absolument pas voir. Et en me confrontant à l'altérité, donc à des langues étrangères, à des pays étrangers, à d'autres cultures, à d'autres coutumes, c'est une façon pour moi de renouer avec cette part d'ombre que j'ai toujours voulu, plus ou moins, à laquelle j'ai toujours voulu échapper. Et donc pour moi, voyager, c'est une façon de se connaître soi-même à travers des terres différentes, des pays différents, des cultures différentes, des gens différents qui nous poussent à nous décentrer et donc à voir autre chose que qu'on nous a appris à voir ou ce qu'on ne voulait que, ou ce qu'on refusait de quitter à des yeux.
Alors Marc Alpozzo, je voulais vous faire partager le témoignage d'une personne qui est venue dans l'émission il y a quelques temps, elle s'appelle Céline Curiol. Elle aussi a traversé cette épreuve de la dépression, elle a publié un livre qui s'intitule « Un 15 août à Paris, histoire d'une dépression » où elle raconte la douleur physique qui s'infiltrait en elle. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview et on en parle juste après.
J'ai oublié, heureusement, parce que je pense que le fait d'oublier est tout à fait salutaire dans l'existence, parce que si on devait se souvenir de tous les chagrins, toutes les peines qu'on a eues, ça serait difficile. J'ai oublié cet état très douloureux, qui était l'état de la dépression. Ça me paraît comme une sorte de souvenir. Je sais que c'est moi qui l'ai vécu, mais j'ai du mal à croire, peut-être aujourd'hui, que cet état ait pu être si, si réel et si douloureux.
Voilà le témoignage de Céline Curiol qui a traversé elle aussi la dépression. Marc Alpozzo, dans cet extrait, elle nous dit qu'elle a oublié. Est-ce qu'on oublie la dépression ?
Écoutez, moi, ce qui me concerne, je ne l'ai pas oublié. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire par ce qu'elle a oublié. Est-ce qu'elle a oublié ce qu'elle a vécu ? Ou est-ce qu'elle a oublié la dépression elle-même ? Je n'ai pas oublié parce que la dépression ne me fait pas peur, pour vous parler franchement. Je ne voudrais pas retourner dans la dépression, bien sûr. Je pense pas que ce soit une partie de plaisir, la dépression. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux et je crois pas qu'on ait vraiment envie de passer par là. Mais c'est probablement un mal nécessaire. Donc je le vois comme ça. Et pour moi, la dépression, je l'ai beaucoup plus vue comme une chance. Une chance de me trouver. La dépression, moi, m'a conduit vers ce chemin. Parce que je crois que je me suis toujours recherché, comme beaucoup peut-être, et ça m'a amené vers ce chemin qui m'a amené à la rencontre de moi-même. Et ça, je trouve ça vraiment une grande chance.
Mais pour se trouver, du coup, il est peut-être c'est important est-ce que c'est important d'aller voir, comme vous l'avez fait, un thérapeute, d'analyser, sur une analyse, ou on peut se trouver sans se faire aider ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, on parle d'auto-analyse. Vous savez que Freud disait que ça ne marchait pas. Bon, il y a une école qui dit que ça marche. Moi, je n'y crois pas trop. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit fait pour une analyse. Vous savez, il faut quand même être capable de parler, ce qui n'est pas évident. Bon, je sais que les silences sont très importants dans l'analyse. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a un moment donné où il faut bien quand même essayer de dire des choses. Bon, personnellement, moi, je sais que l'analyse m'a aidé. Ma thérapeute, je la remercie d'ailleurs par cette émission, a été vraiment extraordinaire. Elle a tenu bon malgré toutes les tentatives que j'ai essayé d'employer pour la dérouter. Mais je crois qu'il faut en tout cas faire quelque chose pour travailler à se décentrer et à regarder ce qu'on ne veut pas voir. L'analyse est quand même assez forte pour ça.
Vous dites que vous avez essayé de la dérouter, c'est-à-dire ?
Oui, écoutez, elle me disait quelque chose. Par exemple, elle me disait, il faut que vous rentriez aux États-Unis. Moi, je lui disais que j'étais pas Ulysse, je ne cherchais pas à retourner sur la terre natale. J'étais plutôt Moïse, je recherchais je cherchais la terre promise. Enfin bref, c'était c'est des tours de langage. Mais donc j'essayais de lui montrer qu'elle n'avait pas raison, qu'elle avait tort et que j'étais sur la bonne route. Mais l'analyste sait percevoir à un moment donné les bons points et vous faire des croche-pattes, et là vous êtes par terre et vous rendez compte que voilà, que vous étiez en train de tourner en rond. Et alors vous prenez conscience que peut-être vous tourniez en rond dans votre petite cage et qu'il y avait autre chose que ce que vous pensiez vrai. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant pour avancer dans la dépression et surtout dans l'analyse.
Marc Alpozzo, restez avec nous. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à vous envoyer des questions sur les réseaux sociaux. C'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question de Mathilde de Paris 7e. Elle nous écoute dans le 7e arrondissement de Paris. Elle vous demande ce qui vous a poussé à écrire votre propre histoire.
Écoutez, en fait, c'était un journal de thérapie que je tenais au moment où je suis rentré. Je prenais des notes, notamment beaucoup mes rêves. Et à la base, c'était vraiment juste un journal personnel. Et puis ça s'est étoffé et progressivement, c'est devenu ce journal, je dirais, de thérapie et de voyage. Et puis, il y a aussi autre chose. Si je l'ai publié, c'est pour communiquer. C'est parce que je me suis dit, je m'en suis quand même sorti, et probablement que je pourrais aider d'autres personnes sur leur propre chemin. Donc, je pense qu'un témoignage est important parce qu'à travers un témoignage, on peut soi-même peut-être faire son propre chemin. Et donc, je voulais qu'il soit accessible à tous pour qu'ils puissent éventuellement aider d'autres personnes.
D'autant que la dépression est un mal qui se répand de plus en plus dans notre société.
Hein. Hélas, oui. Je pense que la dépression est de plus en plus une monnaie courante dans les sociétés occidentales, oui.
Marc Alpozzo, on a une autre question de Patrick qui nous écoute du côté de Neuilly. Il vous demande si vous retournez aux États-Unis.
Oui, alors maintenant j'y retourne, je ne suis pas encore retourné, mais c'est programmé dans pas longtemps. Ma belle-mère est venue en France il y a un an, on s'est vu à Paris, et oui, j'ai programmé un retour, mais j'y vais occasionnellement. J'avais dit dans mon livre que peut-être je retournerai m'installer à New York, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire à l'heure actuelle. J'ai fait un tel chemin que maintenant, je pense que je suis réconcilié avec cette ville.
Vous avez quand même gardé des liens avec votre famille là-bas, enfin l'entourage de votre père.
Oui. Je garde des liens avec eux et avec donc ma belle-mère et ma marraine. Et il est évident que je les entretiens, oui, avec oui, je m'y applique.
Ouais. On a une autre question d'Elsa de Paris 11e. Elle vous demande quelle est la rencontre qui a été la plus importante dans votre quête de vérité. Celle qui a peut-être fait un déclic.
Écoutez, moi je pense que c'est ma thérapeute, c'est elle qui m'a permis le déclic. C'est grâce à ma thérapeute qu'à un moment donné. Puis je pense aussi que c'est une autre rencontre. Je cite une personne dans mon livre qui s'appelle Sylvia. Et c'est également elle avec qui j'ai beaucoup dialogué. Je pense que c'est ma thérapeute et Sylvia. C'est toutes les deux. Sylvia m'a montré un petit peu une autre part de mon histoire, et ma thérapeute. Donc c'est ces deux rencontres-là qui ont fait qu'à un moment donné, ben, je suis retourné chercher et poussé beaucoup par Sylvia d'ailleurs aussi, pas que par ma thérapeute, je suis retourné chercher et j'ai commencé à vraiment fouiller dans Internet et j'ai commencé à vraiment appeler les gens.
J'ai l'impression que vous êtes beaucoup ouvert aux autres et c'est tout le paradoxe de la dépression, c'est que c'est une maladie qui nous isole un peu, qui nous renferme, mais en fait pour en sortir il faut vraiment faire confiance aux autres et essayer de s'accrocher à des rencontres comme vous l'avez fait.
Oui, c'est exact, vous avez bien soulevé le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois on se replie sur soi-même, c'est de plus en plus difficile de communiquer et en même temps sans les autres on ne peut pas avancer. On doit tout le temps compter sur les autres, on doit compter sur soi-même, sur ses propres forces. C'est un travail personnel hein, d'avancer, hein. C'est vraiment un travail personnel avant tout. Hein. Il faut compter sur ses propres forces, il faut vraiment le vouloir, mais il faut rester connecté. On ne peut pas se déconnecter des autres. Et quand on formule le désir d'avancer, à un moment donné, ces gens viennent vers nous. Et alors là, il faut être attentif, il faut être à l'écoute.
Et se raccrocher aussi à des livres, vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez consulté beaucoup de livres et d'auteurs. On a une question d'auditeur, Claire de Paris 2e, qui vous demande quels sont vos livres préférés et quels sont les livres qui vous ont aidé justement dans cette épreuve-là.
J'ai commencé par lire beaucoup de livres de psychanalystes, donc Freud, Lacan. J'ai également lu des vulgarisateurs en psychanalyse, bon, bien sûr. Puis après, il y a eu des auteurs, par exemple, comme Anthony Di Melo. Alors, c'était beaucoup plus des gels mystiques. Anthony Di Melo, il y a eu également des écrivains qui m'ont beaucoup aidé, comme Annie Arnaud. C'est vrai que c'était au gré, je dirais, des discussions que j'avais avec ma thérapeute et puis au gré des questionnements. Et puis je me suis beaucoup intéressé au concept de psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle me disait quelque chose et puis alors j'allais chercher beaucoup sur Internet aussi. Et alors je creusais la question, j'essayais de creuser alors d'un mot ou d'un concept, je passais à un autre concept, donc d'une idée à une autre. Et puis à un moment donné, ben, j'arrivais à déblayer un peu. Puis alors, je rentrais beaucoup en moi-même. Il faut aussi beaucoup rentrer en soi-même. Il faut aller se questionner en soi-même. Et puis, j'écrivais aussi beaucoup, puisque bon, moi, ce genre de thérapie, en fait, c'est quand même une bonne dizaine de cahiers que j'ai synthétisé.
Voilà, et c'est maintenant un livre qui s'intitule Le Saut Ninjeski, journal d'un éveil, publié aux éditions Regard et Voir, que je conseille à tous nos auditeurs, autant aux personnes qui traversent la dépression qu'à leurs proches, justement, pour comprendre cette maladie qui est assez compliquée à comprendre lorsqu'on est confronté et qu'on a un proche dans ce cas-là. Marc Alpozo, je vous remercie d'être venu sur l'antenne de Vivre FM et à très bientôt.
C'est moi, merci beaucoup.
Vivre FM, podcast.